Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Quartier Libre où je reçois aujourd'hui sur Fréquence Mistral en direct de notre studio Éric Berthollet, régisseur général du Centre culturel René Char et également l'initiative de la première édition de E-James Live, festival de guitare qui est né en 2007. Bonjour Éric.
Bonjour.
Alors on va présenter ce festival, un peu son histoire, comment s'est passée la première année, la première mise en place. C'est tout un art de programmer ce festival qui quand même a des répercussions dans toute la France.
Et oui, on ne sait pas beaucoup, mais James Live est connu un petit peu partout en France, puisqu'on sait qu'il y a des gens qui suivent notre actualité, qui écoutent nos concerts quand ils sont retransmis en direct et qui, depuis peu, peuvent aussi regarder les vidéos des concerts qu'on retransmet aussi en direct. Donc, E-James Live, c'est un événement qui a été initié en 2007. C'était un événement qui était expérimental à l'époque. Voilà, c'était un ensemble d'idées autour du centre culturel. On avait envie de faire un événement de type festival. Les choses ont concordé. On a eu des idées par rapport à la guitare, par rapport à l'Internet. On a voulu mélanger tout ça et on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui faisaient beaucoup de choses sur Internet. On n'en entendait jamais parler, qu'il y avait beaucoup d'échanges entre musiciens. Musiciens professionnels, musiciens amateurs. L'Internet a rapproché ces deux mondes-là d'une façon assez incroyable. On ne l'aurait pas imaginé au début d'Internet où on accusait justement le web d'isoler les gens. Alors en fait, c'est l'inverse qui se passe. Les gens se regroupent sur des forums, sur des choses comme ça. Ils se regroupent par centre d'intérêt. Et ça, c'était très intéressant. Et en définitive, l'idée, c'était de transposer cet univers-là à la réalité. Il y a des musiciens qui échangent des fichiers audio, qui échangent des accompagnements musicaux pour que d'autres puissent jouer par-dessus. Enfin voilà, il y a des échanges qui se passent comme ça. Et nous, on s'est dit à Digne, on a tout ce qu'il faut sous la main pour arriver à donner vie à ça et à permettre peut-être à des musiciens amateurs de se déplacer, de rencontrer d'autres musiciens professionnels, d'échanger, de pouvoir vivre ensemble des expériences musicales. Et voilà, E-James Live est né un petit peu comme ça.
Donc beaucoup d'artistes sont venus de très loin, des artistes connus, des grands maîtres en guitare.
Entre 2007 et maintenant, c'est vrai qu'on a privilégié des artistes français, il y en a quelques-uns quand même. Et puis on est allé en chercher en Grande-Bretagne, en Suède, voilà, dans d'autres pays. Donc ça a donné une petite dimension internationale. Là, ces dernières années, on a pu faire venir Anna Popovic, qui vient en Hollande, mais qui tourne beaucoup, beaucoup aux États-Unis. Guthrie Govan, qui est anglais. Les Freak Kitchen, qui viennent de Suède. Donc voilà, on a fait. De temps en temps, on s'offre une petite escapade à l'étranger, comme ça.
Et puis, E-James Live, c'est aussi des ateliers MAO, musique assistée sur ordinateur. C'était la venue de luthiers. Il y a eu beaucoup, beaucoup de choses en même temps. Les masterclass, bien sûr, et les concerts.
Alors, c'est un ensemble de choses. C'est l'idée d'essayer de monter un événement qui soit grand public, qui s'adresse vraiment à tout le monde, qui permette aux gens de découvrir des artistes qu'ils ne connaissent pas, puisque la plupart des artistes qu'on programme, même s'ils sont, ce sont des virtuoses, ce sont des pointures dans leur domaine, le grand public ne les connaît pas. Et autour de ça, il y a aussi l'instrument qui est la guitare, c'est l'instrument qui est intéressant, la lutherie, les luthiers, c'est un très très beau métier. Il y a de très belles choses qui sont réalisées en lutherie aujourd'hui. Donc quand on peut le faire, parce qu'on n'arrive pas à le faire tous les ans, mais on propose une exposition. Et la MAO qui fait le lien entre la technologie, l'Internet et la scène, MAO qui permet à des gens qui ont peut-être jamais touché un ordinateur de s'enregistrer, d'enregistrer leur instrument, d'enregistrer des morceaux entiers, des œuvres collectives, des œuvres qui sont parfois diffusées, qui sont échangées, voilà. C'est tout un vivier de création. On essaye de donner forme à ça tous les ans pour le plus grand plaisir du public.
Alors, ce n'est pas forcément qu'un public très jeune, en fait.
Alors non, du tout, du tout. C'est un petit peu le fer de lance de l'événement dès le départ. Dès le départ, on a voulu initier un événement qui défende certains types de musique. En l'occurrence, les musiques instrumentales fusion. Alors, ça peut faire peur comme ça, mais là, on entend par musique fusion tous ces styles musicaux qui mélangent les genres. C'est le jazz avec le rock, c'est la musique du monde avec le rap, ça peut être tout ça. Et dès le départ, on a essayé de faire en sorte que ces choses-là puissent aussi se réaliser sur place chez nous. Donc les échanges, les ateliers, et notamment les ateliers EMAO, pour revenir sur les ateliers EMAO, ont permis des productions qui sont diffusées localement, ont permis à des productions musicales de voir le jour, dans des styles complètement inattendus. Et voilà, c'est vraiment, chaque année, c'est totalement différent. Il y a des richesses, il y a vraiment une richesse musicale. Et tout se joue au niveau des rencontres. C'est vraiment un ensemble de choses.
Donc on va voir un petit peu tout au long de cette émission les différents artistes qui sont venus.
J'ai fait une sélection de titres qui illustrent un petit peu le cheminement du festival. Parce que c'est vrai qu'on n'en parle jamais, mais depuis 2007, il y a des choses qui se sont mises en place, qui ont été développées, comme les rediffusions sur Internet, comme les captations vidéo, les enregistrements, les ateliers ont pris une forme. Voilà, tout ça, ça s'est développé d'année en année. Je trouve ça intéressant de commencer donc par le tout premier enregistrement qui ait jamais eu lieu sur le festival. C'était l'atelier des musiques improvisées, sous la direction d'Alain Solaire, qui avait proposé un atelier de composition, et un titre a été composé par lui-même donc pour l'occasion. C'était le blues des communards, et voilà, et donc on a un petit enregistrement qui illustre.
Donc c'est le premier. C'est parti. Alors, on est toujours avec Eric Berthollet sur Fréquence Mistral pour parler d'E-Gems Live, son histoire.
Voilà, donc ça c'était le tout premier atelier dans l'histoire du festival, qui était un atelier donc très jazz, hein, proposé par l'atelier des musiques improvisées, donc une structure que tout le monde connaît bien maintenant, à Château Arnoux, sous la direction d'Alain Solaire. Donc ça a été un très très bel atelier, et là ce qu'on vient d'entendre, c'est le fruit de leur travail interprété le soir devant le public. Donc voilà, c'était le tout premier enregistrement du festival.
Alors on parlait, malgré que ce soit une musique, les musiques actuelles, jazz, metal, fusion, c'est pas forcément qu'un public jeune. Est-ce que le public est le même pour l'atelier de musique assistée sur ordinateur que celui qui vient participer au masterclass et que celui qui vient au concert ?
Le public ciblé, en fait, il n'y en a pas. C'est tout public. Voilà, depuis le début, bon, là, on a commencé par une approche très jazz, mais c'est vrai que les musiques qu'on défend, hein, les musiques essentiellement instrumentales, ça tourne autour du jazz, autour du métal, autour du fusion, autour de ces types de musiques qu'on ne connaît pas bien. Mais même si c'est classifié parmi les musiques actuelles, on a toujours fait en sorte que l'événement ne soit pas un événement... on va dire entre guillemets de jeunes pour des jeunes. On n'est pas dans cette espèce de contrainte-là. On cherche véritablement à réunir tout le monde, le public le plus large possible, voilà, autour de styles musicaux qui ne sont pas forcément très 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 connus. Donc voilà, il y a cette idée de découverte. Il y a cette idée aussi que le public il est de 7 à 77 ans, quoi. Et voilà, il n'y a aucune contrainte à ce niveau-là. On ne cloisonne pas de cette façon-là. Et donc du coup, on peut dire que globalement, même sur des ateliers de musique assistée par ordinateur qui relèvent quand même de technologies relativement récentes, qui on va dire qui a priori sont manipulées et comprises plutôt par les plus jeunes, il y a quand même des gens d'un certain âge, des gens retraités, hein, de tous les milieux, pas forcément musiciens. On a eu des enseignants, on a eu des gamins aussi que les parents amenaient, qui étaient intéressés par l'idée de pouvoir enregistrer leur musique sur ordinateur. Donc le public est vraiment large, aussi bien dans la salle pendant les concerts que dans les ateliers. Les masterclass de guitare ne rassemblent pas forcément des adolescents avec leur guitare électrique, c'est pas du tout. On a vu des gens de tous âges venir avec leur instrument et profiter de la présence d'artistes. Et profiter de l'organisation de masterclass de guitare, ce qui est pas forcément très très fréquent. Dans le département, pour trouver des masterclass de guitare, il y en a pas. Il y a pas des tonnes dans l'année. Donc voilà, c'est l'occasion pour ces gens d'aller s'initier, d'aller découvrir.
C'est gratuit en plus pour participer au masterclass.
Tout est gratuit.
Tout est gratuit. Okay. Donc c'est quand même très intéressant pour les musiciens d'avoir cette possibilité, et puis de jouer aussi pour certains, en fait, quand ils travaillent en masterclass, il y a la possibilité d'être sur scène avec l'artiste.
Voilà, les e-jams, ce qu'on appelle les e-jams. Tous les ans, on demande aux artistes qui sont programmés de nous fournir un titre de leur composition si possible. Bon, maintenant ça peut être des standards aussi, on a vu par le passé, enfin, de toutes les éditions, que de temps en temps ça arrive et puis ça fonctionne bien aussi. Un titre qui soit interprétable le soir même par l'artiste en question et ses musiciens, pour qu'ils puissent inviter sur scène des musiciens amateurs qui auront travaillé le morceau en question, le ou les morceaux. Donc c'est un petit peu compliqué à expliquer. Tout à l'heure on pourra entendre justement un exemple. J'ai fait dans ma sélection, il y a un titre justement où ce qu'on appelle nous les e-jammers sont invités sur scène pour venir jouer, et qui illustre bien la façon dont ça se déroule.
Est-ce qu'on écoute...
Alors on va en écouter un second.
Oui.
Donc c'est un titre de Luiz de Aquino, c'est de la musique brésilienne. Ce titre-là, il est intéressant parce que ça a été un des premiers titres à être diffusé en direct sur Internet. Donc à l'époque, c'était encore expérimental. Et je sais que ce concert a été écouté par une personne aux États-Unis qui a réussi à se connecter. Bon, il n'a pas pu écouter tout bien du début jusqu'à la fin. Il y a eu beaucoup de coupures. Mais l'expérience était nouvelle. Et donc voilà, ce titre de Aquino, c'est de la musique brésilienne, c'était en 2008.
Voilà donc pour ce style encore bien différent du premier.
On est passé du jazz au Brésil. Voilà, sur les sept années passées de festival, on a fait le tour de pas mal de courants et de styles musicaux. Ce qui fait, c'est une des originalités du festival, qui est de se cloisonner à certains types de musique et de ne pas en sortir. C'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux musiques actuelles, l'image que les gens, le grand public a des musiques actuelles. Ça tourne autour de deux, trois styles musicaux et en règle générale, c'est l'image de jeunes qui font un peu de la musique comme ça parce que c'est mieux qu'ils fassent ça qu'autre chose. D'ailleurs, malheureusement, ça traîne, à mon sens, ça traîne cette mauvaise étiquette un peu socio-éducative. Enfin, voilà, les musiques actuelles sont davantage employées, on va dire, à des fins plutôt socio-éducatives, pour dire comme si c'était des jeunes qui font de la musique, c'est toujours mieux qu'ils fassent ça qu'aller au bistrot. Hein, et d'ailleurs, très souvent, ça devient un petit peu le terrain au niveau des préventions diverses et variées. Hein, c'est tout à leur honneur, d'ailleurs, les gens qui font ça. Mais voilà, c'est ce contexte-là qui est un peu lourd par rapport au terme musiques actuelles. Donc, un des points importants du festival aussi aura été de dire il y a autant de noblesse à trouver dans un concert de jazz que dans un concert de heavy metal ou un concert de fusion. Tous les artistes qu'on invite, ce sont des gens qui ne se contentent pas de savoir jouer de leur instrument, qui ont été beaucoup plus loin. C'est des gens qui ont 10-15 ans de pratique derrière eux, qui ont travailler des heures, qui vouent leur quotidien à leur instrument et qui donc ont atteint un certain degré de virtuosité. Et cette virtuosité-là, elle existe dans des styles de musique qui malheureusement ont une mauvaise image, et notamment le heavy metal, puisqu'on va écouter là un artiste qui s'appelle Thomas Bressel. Donc ça aura été le tout premier concert de heavy metal jamais organisé au Centre culturel René Char. Voilà, c'était en 2009. Voilà, Thomas Bressel. Voilà, donc c'était Thomas Bressel enregistré en public donc en juillet 2009. Hein, tous les enregistrements qu'on écoute, donc ces enregistrements que nous avons réalisés nous-mêmes, hein, parallèlement aux rediffusions qu'on fait, on assure vraiment tout nous-mêmes. La même année, un petit groupe de jeunes qui s'appelait Underpaid, qu'on a remarqué complètement par hasard, mais vraiment ce qu'ils font, c'est terrible. Eux illustrent bien la partie fusion, rock fusion progressive. Ils sont très très inspirés par Frank Zappa, par des gens comme ça. Ils étaient très jeunes à l'époque, une petite vingtaine d'années à peine, et ils ont donné leur premier concert, premier gros concert donc sur la scène du festival, et c'était en 2009, Underpaid.
Magnifique.
Voilà, Underpaid. C'était donc c'était l'édition 2009 du festival, donc c'était la troisième. Voilà, ça commençait un petit peu à se roder. On avait commencé à prendre une vitesse de croisière sur 4 jours. L'événement donc se plaçait sur 4 jours. On avait pris l'habitude aussi de terminer en extérieur, donc sur un plateau en extérieur. Le quatrième jour était en extérieur pour vraiment, vraiment se rapprocher du centre-ville et vraiment aller chercher le public. Voilà, se retrouver vraiment au milieu de la ville, c'était bien. Et tous ces styles différents, le concert de Thomas Bressel, Heavy Metal, du jamais vu, Underpaid, du Fusion, etc. Ça a donné un petit peu envie d'aller un petit peu plus loin en dehors de la période du festival, sur la saison. Et voilà, je pouvais pas m'empêcher de faire écouter un petit morceau, un petit extrait d'un concert qu'on a eu, qui a quand même été un concert fantastique. L'histoire du festival a permis de programmer un jour un guitariste français qui, à mon avis, est un guitariste majeur quoi, dans l'histoire du rock français, c'est Patrick Ronda, qui est venu en 2009 avec Jean Fontagny, qui est un autre guitariste français qui lui aussi a eu sa place déjà sur le festival. Et donc là, on va les retrouver tous les deux en duo. C'était au Centre culturel René Char, donc c'était en 2009, j'ai plus la date précise en tête. Et ils vont vous offrir à tous les deux un Vivaldi Tribute, qui est le titre phare du répertoire de Patrick Ronda. Enfin, c'est ce titre-là qui fait qu'on connaît bien Patrick, parce qu'il a été donné au pied de la Tour Eiffel en duo avec Jean-Michel Jarre pour l'an 2000. Donc voilà, il y a eu tout un truc autour de ça, et voilà, c'est son titre fétiche.
bien voilà, un Vivaldi plutôt pas mal avec la guitare électrique.
Voilà, hors cadre, James Live, mais c'était un petit clin d'œil, je crois, intéressant, parce que voilà, quoi, c'est une des conséquences de l'existence du festival, qui est un jour d'avoir accueilli Patrick Ronda dans notre salle. Et voilà, donc on a...
Incroyable d'avoir un concert comme ça, à Digne, à Digne-les-Bains.
C'était super, et ils avaient la même formule, avaient joué le même répertoire dans le même projet quelques jours avant à Paris, dans une salle qui était quand même assez à ses côtés, hein. j'ai plus le nom en tête, mais il m'avait dit qu'ils avaient franchement fait beaucoup moins de monde et que le public avait rien à voir, quoi. Digne, ils ont vraiment passé un très très beau moment.
Alors ça, c'était en 2009 à Digne. On va revenir à James Live. Le public, alors depuis 2007 par rapport à maintenant, est-ce qu'il est allé crescendo? Vous avez commencé à combien de personnes pour les premiers concerts et James Live en 2007?
Alors c'est tout à fait variable. On va dire que assez rapidement, on a eu des salles quasiment pleines de public. Bon, ce sont des concerts qui sont gratuits. On fait en sorte que le contexte soit suffisamment accueillant, on n'est pas dans un cadre festival comme on pourrait l'entendre, hein. D'ailleurs, c'est aussi une des idées fondatrices de l'événement, qui est d'essayer de casser un petit peu le côté formel de l'événement avec l'artiste qui est inatteignable, le tapis rouge, les gars avec les badges, les oreillettes, la sécurité, etc. Bon, voilà. Chez nous, c'est pas comme ça que ça se passe. Les artistes viennent parce que ce sont des artistes. Ils viennent rencontrer leur public si le public le souhaite, hein. Il n'y a pas des gardes du corps devant la porte des loges. Et puis surtout, le musicien amateur qui a envie d'aller serrer la pince au guitariste qu'il admire et puis de se faire cliquer deux, trois plans comme ça, je veux dire, il est le bienvenu, puisque c'est l'idée de l'événement. Mais le public, en fait, c'est assez particulier. Il s'est fidélisé petit à petit au fur et à mesure des années. Et on s'est rendu compte que des gens revenaient tous les ans en cours d'année pour nous demander comment ça se passait, quelles étaient les dates, sans chercher à savoir qui était programmé, même d'ailleurs.
Ils venaient systématiquement après.
Mmh. Et quand la billetterie était ouverte, quand on fait une billetterie au centre culturel, on remarque aussi que des gens viennent et prennent leur billet pour tous les soirs. Voilà, c'est gratuit. On impose juste le fait de prendre un billet pour des raisons administratives, mais voilà, on se rend compte de ça. Et le public fidèle, c'est pas forcément le public qui pratique. Voilà, c'est des gens qui viennent découvrir. On a vu des grands-parents venir avec leurs petits-enfants. On a vu des gens venir du camping à côté en sandales et venir assister au concert. Enfin, des gens contents d'être venus découvrir des choses. Voilà, contents de manifestement de pas juste représenter la vente d'un billet, quoi. Voilà, le public, quand il vient à James Live, pour nous, c'est pas juste quelqu'un qui va venir acheter un billet et qui va repartir après. Voilà, c'est quelqu'un qu'on a envie d'accueillir, à qui on a envie d'offrir le maximum de possibilités, de confort, de... Voilà, quoi. Il y a vraiment un lien entre le public et nous, et ça, le public l'a bien compris.
Beaucoup de guitaristes hommes, mais il y a eu aussi des femmes... Quelques-unes.
On a eu quelques-unes, on va en entendre un tout petit peu, un peu plus loin. Mais c'est vrai que des guitaristes femmes, et elles sont pas très nombreuses. C'est dommage parce que elles commencent à faire un peu parler d'elles de plus en plus dans le monde de la guitare. C'est vrai que le monde du métal, du jazz, c'est très masculin, mais il y en a quand même quelques-unes.
Plus en plus de femmes à la basse, peut-être aussi.
Tous les instruments.
Ouais.
Tous les instruments.
La batterie, s'y mettent.
Les instruments avant, le saxophone, la guitare électrique, oui, tout à fait.
Même le trombone à coulisses.
Heureusement.
Ouais. Est-ce qu'on passe à Pierre-Jean Gaucher?
Là, on arrive en 2010 et Pierre-Jean Gaucher, qui est aussi, à mon sens, un guitariste très important dans l'histoire de la musique française actuelle, puisque le mot contemporain est déjà pris par d'autres. Pierre-Jean Gaucher, dans le monde du jazz, il a fait sa place, notamment en travaillant beaucoup un univers qui lui tient à cœur, qui est celui de Frank Zappa. On connaît beaucoup Pierre-Jean Gaucher pour ses tournées, ses spectacles et ses albums autour de l'œuvre de Frank Zappa. Et d'ailleurs, Pierre-Jean Gaucher avait été accueilli déjà au Centre culturel en 1999, avec notamment Eric Lohrer, un autre guitariste très important aussi, que les passionnés connaissent bien, dans un projet justement autour de Zappa. Et il avait complètement oublié, on en avait parlé, il me dit « Ah bon ?» Et c'était un très très chouette concert, et avec violoncelle et batterie, c'était la tournée qui concernait un album de reprise qu'il avait faite avec cette formule là. C'était en 2010. «
Voilà, iGems Live 2010.
Voilà, c'était Pierre-Jean Gaucher avec son projet Melody Makers. C'était en fait un projet. L'idée, c'était de reprendre des grands standards de la pop-rock anglaise. Bon, voilà, ils avaient fait un album à l'époque en 2010. Ils avaient fait une tournée. Et puis, ils en ont ressorti un depuis. Voilà, Pierre-Jean Gaucher, qu'on reconnaît bien.
Alors ensuite, 2011, ça a changé encore
Alors 2010-2011, on va dire, si on fait un petit point comme ça, c'est un peu les grandes années. Voilà, les 2010, 2011, 2012, voilà, ça aurait été trois années successives, on va dire, où le festival a pris sa pleine forme. Après, ça peut toujours évoluer, peut-être que dans un an, ce sera différent, mais voilà. Vitesse de croisière sur 4 jours, un concert chaque soir, les rediffusions en direct audio donc qui commencent à fonctionner, parce que c'était pas évident au début, hein, y avait beaucoup de bugs, mais là ça marchait pas mal. Et puis on avait commencé aussi en 2010 à faire un travail un peu plus sérieux en vidéo qui allait déboucher un peu plus tard, en 2012, voilà, sur une vraie captation vidéo un peu plus sérieuse, mais ça on verra ça juste après. En 2011, c'est aussi l'année de la venue de Guthrie Govan dans notre salle, et d'Anna Popovitch, voilà, qui sont vraiment deux noms évocateurs. Guthrie Govan, qui est un Anglais, qui a été guitariste dans le groupe Asia dans les années 80, et puis un jour, il décide de se faire une carrière solo, il sort un album, et cet album est monumental, et il est encensé par tous les grands guitaristes du moment, que ce soit Satriani, Steve Vai, enfin tous les guitaristes actuels. Il sort un album terrible, et donc on le reçoit peu de temps après au Centre culturel. C'est sa toute première date en France avec ce projet-là, donc il est avec son frère à la basse, et puis un batteur, donc en trio, et voilà, Guthrie Govan, ça donne ça.
Salut tout le monde. We'll be right back.
Voilà, c'était Guthrie Govan.
Guthrie Govan,
2011.
Voilà, de la fusion pure et dure.
Et, ouais. et puis bien sûr, la super Nana.
Et voilà, 2011. C'est l'année d'Anna Popovitch, guitariste de blues de plus en plus connue. Ça a été le premier concert de l'histoire du festival à afficher complet plus d'une semaine avant qu'il ait lieu, quoi. Donc on a joué à guichet fermé. C'est vrai que le soir même, du public n'a pas pu rentrer dans la salle, voilà, c'est jamais arrivé. Donc on avait anticipé le truc et il y avait eu un écran placé dans le hall, je me souviens, il me semble, avec une caméra fixe. Et malgré tout, les gens avaient pu voir le concert. Et Anna Popovitch, c'est aussi... Alors Anna Popovitch, elle a joué le jeu des e-jams, comme tous ses prédécesseurs, hein, tous les musiciens depuis 2007, on leur demande de jouer ce jeu-là, quoi. Donc,
c'est-à-dire le masterclass.
Voilà, c'est l'idée de donner une masterclass, et c'est l'idée de proposer un titre autour duquel travailler un petit peu le temps de la masterclass. Voilà, ça dure pas très longtemps, hein, c'est très furtif, c'est une demi-heure, trois quarts d'heure. Pour pouvoir, le soir du concert, inviter sur scène donc ces musiciens amateurs qui auront participé. Ça donne du coup aux musiciens amateurs un statut très particulier, quoi, parce qu'ils ne vont pas monter sur scène pour faire un mauvais bœuf à la fin, comme on pourrait le croire, hein. Ils sont vraiment invités par les artistes eux-mêmes dans le cadre d'un travail qui aura été fait. Donc c'est vraiment de qualité. Et en règle générale, on s'aperçoit que le public, au début, il est un petit peu surpris, il ne comprend pas trop ce qui se passe, hein, pour ceux qui ne sont pas habitués au festival, de voir ces gens monter, être appelés sur scène. Et ils sont très, très, très agréablement surpris par les prestations et la qualité des prestations de ces musiciens amateurs qui auront travaillé chez eux peut-être un mois ou deux, un titre ou deux, et qui auront travaillé avec l'artiste, va tout casser une demi-heure, donc voilà. Et ce soir-là, parmi les e-jamers, il y a un petit garçon, il avait 14-15 ans à l'époque, c'était Lucas qui a joué avec Anna Popovitch sur scène, qui a bluffé tout le monde par rapport à son niveau de guitare. Et du coup, Anna, elle lui a fait faire reprendre son solo et elle en a donné l'occasion d'en faire encore un et d'en faire encore deux. Ils ont rallongé le morceau exprès tellement il s'était vraiment passé quelque chose entre elle et lui. Et ce soir-là, après avoir eu cette expérience-là, après avoir assisté au concert, et ben, il a annoncé à ses parents qu'il voulait faire de la musique. Et maintenant, il en fait. Il a monté le Lucas Blues Project, qui est une petite formation. Ils sont tous très, très jeunes, hein, de blues, très roots. Et il fait son petit bonhomme de chemin. Et on va en reparler très bientôt. Donc, Anna Popovitch, c'était en 2011.
On l'écoute.
Ça va tout le monde? All right, we're going to play a little bit of blues for you guys.
Voilà, un beau concert qui est affiché, complet.
Voilà, complet, Nina Popovic en 2011. C'est un très très beau concert, très chaud. Ça a joué, voilà, il a duré longtemps, le public était debout. Fin...
Et elle a laissé des traces dans le cœur des Dinois qui ont beaucoup parlé.
Ah, je crois que les 300, tout le monde 300 était chanceux séduit, qui étaient dans la salle, ils en gardent forcément un souvenir, un souvenir indélébile. Et donc là, on va passer à la deuxième guitariste féminine, puisque c'est, on va parler de Nina Attal, hein, qui est présentée comme la future dame blues française. Voilà, elle fait son petit bonhomme de chemin. L'extrait que j'ai choisi, il est peut-être un tout petit peu long, mais en fait, je l'ai choisi parce qu'il illustre bien les jams, c'est-à-dire qu'elle va accueillir sur scène des guitaristes qui sont dans la salle, qui ont travaillé avec eux un morceau dans l'après-midi, elle en dit deux mots. Et donc, sur un titre à elle, pas une reprise ni un standard. Voilà, je crois qu'on va écouter pour se donner une petite idée de la façon dont elle a annoncé ça.
Bon, on a une dernière surprise pour vous. C'était pas le dernier morceau. Est-ce que vous êtes contents? Ok, donc on a quelques invités qui vont venir sur scène. Donc venez, venez les invités. Donc c'est des gens qu'on a rencontrés aujourd'hui, qu'on connaît depuis peu de temps, qui sont venus à la masterclass ce matin qu'on a fait avec Philippe. Et puis on leur a appris un petit morceau et comme ils avaient envie de jouer sur scène, et on leur a dit allez. Voilà. Donc c'est Lucas à la guitare, s'il vous plaît. Applaudissez très fort Lucas. Yeah. Ensuite il y a David aussi à la guitare. Plus fort pour David. Yeah. Michael encore à la guitare. Il n'y a que des guitaristes ce soir. Michael à la guitare. Et Jean-Pierre aussi qui nous rejoint. On applaudit Jean-Pierre. Yeah.
On a entendu, enfin, normalement, vous n'avez pas entendu les guitaristes parce que justement, ils se sont tellement bien fondus dans le truc, ils ont tous vraiment, vraiment bien, bien joué, alors qu'ils n'ont pas tous forcément un gros, gros niveau de guitare. Et voilà, c'est ce que le public a en salle le soir. Ils ont ces prestations-là et ils sont vraiment surpris. En 2012, c'est aussi l'année de Renaud Louis Servet Group. Alors ça c'est un de mes concerts favoris et on a accueilli donc dans ce concert là un saxophoniste que certains connaissent peut-être, c'est Alain de Biosa qui est le saxophoniste de Sixson qu'on avait déjà reçu il y a quelques années. On a reçu Louis Winsberg aussi à l'occasion du festival il y a quelques années, donc il est peut-être pas exclu que dans le futur Sixson on va y arriver peut-être, hein. Voilà.
Le temps pressant, on est et obligé de couper un peu, mais voilà.
Donc après 2012, aussi les Morgelball. Alors Morgelball, bon, il y en a beaucoup qui connaissent. Ils ont fait la première édition en 2007. Ils ont fait une résidence en 2009 qui a donné lieu à la réalisation d'un DVD live. Voilà, ça on ne sait pas, mais il y a un DVD live qui est vendu aux États-Unis par un label américain qui a été enregistré au Théâtre des Chars à Digne. Voilà, donc les Morgelball, on écoute un petit peu.
Le nom presque imprononçable.
Morgelball, avec Christophe Godin à la guitare, voilà, Yvan Rougny à la basse et Aurélien Ozoulias à la batterie.
Et puis les Doigts de l'Homme. Presse un peu Eric, voilà, Berthollet, ouais, puisque le temps passe et qu'il faudra quand même parler des groupes à venir.
Et oui, surtout, oui. Les Doigts de l'Homme, donc voilà, pareil, guichet fermé, complet le soir même. Un très très beau concert. C'était en 2013. Thank you. 2013, voilà, c'était aussi, bon, ça c'était les doigts de l'homme, il y avait Simon Depize, qu'on a entendu tout à l'heure dans un autre projet, Underpain, quand il était encore un tout petit peu jeuneau. Là, il a pris un petit peu du grain, et voilà, il a un bel avenir devant lui. Et il était donc sur Rhythm Live 2013, en son nom propre, Simon Depize Group, et ça a été un très 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 bon concert aussi.
Voilà, un rapide survol de tous les concerts.
Voilà, on a fait un petit survol, ouais, de cette année.
Alors, cette année, ça continue.
Donc, cette année, Idioms Live, donc, ce sera en plein air, et non pas au Centre culturel René Char, hein, pour diverses raisons. Donc, ce sera les 4 et 5 juillet prochains, et ça sera Place de la Barlette. Donc, le 4 juillet... on accueille un projet caritatif, c'est les Guitares du Cœur. En fait, c'est une compilation qui a été enregistrée par une quinzaine de guitaristes de tous horizons au profit d'une association pour les enfants malades du foie. Bon, voilà, il y a toute une histoire. Tout l'historique figure sur notre site. Et parmi cette quinzaine de guitaristes, donc, il y en a 5 qui feront des déplacements à Digne pour interpréter donc une partie du répertoire de la compile, dont Pascal Vigné. Voilà, Pascal Vigné, qui est un guitariste français, voilà, de haut niveau. Qu'on va écouter dans son titre sur la compile, donc c'est Aqua Blue.
Aqua Blue, voilà.
Aqua Blue. We'll be right back. Donc ce projet est donc, sera en, sur scène en concert le vendredi 4 juillet à partir de 21h30. Ce jour-là, il y aura aussi des masterclass, puisque hein, voilà, les guitaristes qui vont se déplacer vont jouer le jeu aussi des masterclass. Donc à partir de 14h à la salle annexe du conservatoire de Digne, pour ceux qui connaissent, il y aura des masterclass de guitare. Il y aura Simon Depize, il y aura Yvan Givic, il y aura Yann Armelino. Vous pouvez aller sur notre site www.ejamslive.com dans la rubrique E-Jam, vous verrez que chacun de ces artistes vous propose un titre à travailler. Il y a un lien, on peut aller écouter, on peut aller s'inspirer, etc. Donc bah voilà, il faut faire ça un petit peu avant, c'est bien. Puis le jour même, le jour de la masterclass, avec, directement avec le guitariste, on vous mettrait ça en place pour le concert du soir. Il y aura aussi des ateliers MAO, toujours à la salle annexe du conservatoire, hein, au même endroit, pour ceux que ça intéresse, pour ceux que l'informatique musicale intéresse, des ateliers MAO vous seront proposés. Donc vendredi 4 à partir de 11h du matin, voilà, tous les horaires, tous les détails, tout ça sur le site aussi.
Et puis on va venir évidemment, donc ça ce sera Place de la Barlette pour le concert le 4 juillet, les guitares du cœur.
Très beau
projet.
Donc
c'est la première fois que c'est pour une action humanitaire.
Tout à fait, le CD est en vente en ligne, vous avez un lien sur le site pour aller jusqu'à la plateforme qui le vend. Il y en aura aussi le soir même, donc voilà, vous pouvez faire un bon geste.
Et puis on termine avec Marco Ballan.
On terminera avec du blues, ça fait bizarre de dire on terminera, c'est que le deuxième jour, mais bon, c'est sur deux jours cette année. Le samedi soir, le samedi 5 juillet, avec une soirée blues donc autour de Marco Ballan et d'un projet donc, dans lequel il joue, qui s'appelle Atman Session. Donc voilà, c'est un trio. C'est du blues roots, du bon blues, avec un bon harmonica. Et lui aussi proposera une masterclass d'harmonica. Ce qui est exceptionnel, c'est la première fois cette année qu'on propose une masterclass d'autre chose que de la guitare. Voilà, ça, on sort un tout petit peu du rail. En compagnie de son guitariste, Nasser Bendadou, ils donneront une masterclass tous les deux. Et là aussi, Marco propose un titre à travailler. Ça s'adresse aux harmonicistes, aux guitaristes, donc voilà, venez nombreux et surtout n'ayez pas peur, n'hésitez pas, c'est gratuit, c'est ouvert à tous, plus on est nombreux et plus l'événement a de la vie, quoi. C'est ce qui donne un petit peu du jus au festival, c'est la participation du public et des musiciens amateurs. Someone picking the cotton, someone picking corn. Someone picking the cotton, someone picking corn. Can't stand the look of rum, tobacco, sugar cane. Can't stand the look of rum, tobacco, sugar cane. Nobody knows what King Cotton done to me. Et donc le challenge E-Jams Live qui vous permettra peut-être de monter sur scène avec l'artiste que vous avez choisi, vous permettra aussi peut-être de gagner des lots puisqu'il y a, des choses à gagner, il y a un tirage au sort parmi tous les participants. Et comme tous les ans, nous aurons une guitare électrique à offrir, donc c'est WSL qui est une société implantée dans la région, à Gémenos, qui offre une guitare tous les ans depuis 2017. Donc ça, c'est...
Et c'est de bonnes guitares, c'est pas des guitares bradées.
Voilà, c'est du bel instrument. Parmi les partenaires, on peut noter aussi Ben Note, site en ligne de cours de musique qui nous offre sa plateforme pour les rediffusions vidéo. Il y aura des rediffusions vidéo qui seront tentées cette année. Radio Zinzine, Ima Sud, Urban Music, le conservatoire qui nous prête ses locaux, Fréquence Mistral bien évidemment, puisque Fréquence Mistral devrait rediffuser nos concerts si techniquement
oui, si tout ira bien.
Two Notes aussi qui offre aussi du matériel, une musical box à Digne qu'on connaît. Voilà, tout ce petit monde nous soutient et j'espère que le public sera
présent, bien sûr. Et ce sera donc en plein air, Place de la Barlette. On souhaite bien sûr que le temps sera beau.
Donc en plein air, proposé par le service culturel de la ville de Digne, hein, puisque voilà. C'est un événement qui est 100% municipal. C'est suffisamment singulier pour le souligner une fois de plus. Hein, voilà, on nous fait souvent ce retour-là.
Donc le rendez-vous le 4 juillet 2014, voilà. C'était pour la 8e édition de Hit Gems Live, 8e édition à Digne-les-Bains. Ce sera à 21h30, place de la Barlette, pour le concert Les Guitares du Cœur, Fusion Rock, Rock Fusion. Et puis les masterclass, atelier EMAO. Voilà, donc pour les renseignements, on retrouve le site www.hitgemslive.com. Et un numéro de téléphone, 04 92 30 87 10.
Voilà, numéro du Centre culturel René Char.
Éric Berthollet, merci. Et puis, bien sûr, on se retrouve pour Hit Gems Live 2014. À bientôt.
À bientôt.